Good evening, everyone.
Bonjour, bonsoir tout le monde.
Pour être ici ce soir, je suis ici avec l'honorable Tony Clement, le ministre de l'Industrie, et nous avons engagé, fait ces engagements pour le droit d'auteur parce que c'est quelque chose qui était une promesse de notre gouvernement pendant la dernière campagne électorale. C'est quelque chose qui est clé pour l'avenir de notre économie. Each of you have access to simultaneous.
Vous avez tous et chacun accès au service d'interprétation simultané. Je vous explique comment ça va fonctionner, tout ça. Monsieur le ministre Clément va vous adresser la parole. Ensuite, on va entamer la conversation.
Mène des consultations nationales sur la modernisation du régime du droit d'auteur. Et nous apprécions votre participation à la table ronde aujourd'hui. Minister Clement and I are hosting roundtable.
Monsieur le ministre Clément et moi sommes en train d'accueillir une série de consultation nationale sur la question du copyright. Nous avons commencé récemment à Vancouver, à Calgary. Nous continuons et avons très anticipé avec plaisir entendre vos propos ici ce soir à Gatineau. Nous voulons que tous les Canadiens aient la possibilité d'exprimer leur perspective sur le droit d'auteur et nous utilisons la technologie pour que le plus grand nombre de personnes possibles puissent participer à ces conversations et ces consultations. Nous avons reçu plus de 200 différentes interventions en ligne au cours de la première semaine.
En temps réel, comme ceux de ce soir. Il y a aussi des conversations interactives. There's the interactive online conversation happening on my BlackBerry right now.
Et voilà mon BlackBerry qui a une vraie consultation interactive.
Les participants peuvent lancer leur propre discussion et répondre aux autres participants. Les Canadiens qui prennent au pas aux échanges ont envoyé plus de 1000 commentaires jusqu'à date.
J'encourage ceux et celles d'entre vous qui ne l'avaient pas encore fait de visiter le site copyrightconsultation.ca et s'il vous plaît, encouragez vos amis de le faire aussi afin que ces consultations peuvent être aussi rigoureuses, robustes et complètes que possible. Alors, le ministre Clément va vous prononcer son mot. Et alors, s'il vous plaît, veuillez bien éteindre vos téléphones cellulaires. Contrairement à moi, il y a une limite de 3 à 5 minutes pour chacune des interventions. Vous verrez qu'il y a une horloge à l'autre bout de la table. Et avant que vous nous adressiez la parole, veuillez vous présenter, s'il vous plaît. Comme j'ai oublié de le faire, d'ailleurs, moi, je suis le ministre James Moore. Et identifiez-vous ainsi que votre institution, si vous en représentez une, et parlez librement. La conversation est enregistrée, sera traduite dans les deux langues officielles, dans l'autre langue officielle du pays, et sera affichée sur le site Web des consultations pour que tous les Canadiens puissent lire cela, se renseigner et former leurs propres opinions là-dessus. Nous espérons que tout cela fera partie de l'encouragement d'une discussion pan-canadienne en ligne et en temps réel. Merci, James.
J'aimerais souhaiter la bienvenue à tous ceux qui se sont joints à nous ce soir à l'occasion de cet événement vraiment historique.
Bien entendu, il s'agit de la région de la Capitale nationale, donc c'est la deuxième semaine de cet événement. C'est une série de consultations qui doit durer 8 semaines, comme l'a indiqué James. Nous allons traverser tout le pays et je pense que nous essayons vraiment de communiquer à tous les Canadiens et de communiquer avec tous les Canadiens, que ce soit au moyen de blog ou de tweet ou bien entendu avec l'affichage en direct et l'affichage simultané, tout cela.
Et, nous avons tenu des rencontres similaires avec des intervenants de Vancouver et de Calgary. Et avant la fin du processus, nous comptons tenir plusieurs autres, y compris les deux assemblées publiques aussi. Ces assemblées nous permettront de connaître les points de vue du public, bien sûr, sur ce que nous devrions faire pour moderniser la législation sur le droit d'auteur qui a été rédigée il y a des décennies. I have to tell you, of course, that
je dois vous dire, bien entendu, et vous le savez déjà, bien entendu, mais il y a déjà eu des mises à jour au fil des ans, au fil des décennies. Et ça peut sembler banal de le dire, mais personne ne peut me contredire. La technologie se transforme avec une rapidité inouïe. Donc, nous voilà devant le double défi d'aborder les besoins d'aujourd'hui tout en, d'une façon quelconque, anticipant ce que nous réserve l'avenir. Alors, nous espérons que vous allez pouvoir aborder certaines de ces questions pour nous ce soir. Et sans aucun doute, nous avons déjà constaté à Vancouver et à Calgary qu'il ne manque pas d'opinion autour de la table. Et puisque nous les Canadiens, sommes si polis en nous exprimant, nous allons certainement continuer d'être polis et courtois, mais n'hésitez surtout pas à introduire des sujets, même s'ils sont plus controversés. Et comme James a déjà mentionné, nous voulons que tous les Canadiens aient la possibilité au moins de nous communiquer leurs idées sur la meilleure façon de moderniser cette législation. Alors, je ne répéterai pas tout ce qu'il a dit, mais la dernière fois que nous avons eu de telles consultations formelles, c'était en 2001. Et quand je dis nous, je veux dire le gouvernement canadien, et je n'ai pas besoin de vous dire combien les choses ont changé depuis. Mais une des épreuves clés pour cette nouvelle loi, c'est est-ce qu'elle va perdurer? Est-ce qu'elle va pouvoir nous donner une base solide qui va pouvoir contrer les nouvelles itérations, les nouvelles générations technologiques? Est-ce qu'on jettera des bases, des assises assez solides que pourraient appuyer et respecter les Canadiens? Je ne vous expliquerai pas tout cela. Mais nous projetons aussi deux autres consultations nationales, une à Montréal et une à Toronto. Il y a le nouveau site Web, comme vous l'a dit James, fonctionne très bien. Nous avons commencé à recevoir ces commentaires, ces observations, ainsi que les discussions sont très animées. Alors, je m'en tiendrai à ces commentaires
ce soir parce que c'est très important d'avoir les points de vue de notre organisation, mais aussi les individus qui veulent présenter. Et peut-être il y aura une à fin de cette soirée, une opportunité d'avoir une discussion free flow discussion.
Une discussion plus libre, moins formelle. J'espère que si tout le monde respecte sa limite de 3 à 5 minutes, comme j'ai peut-être évité de faire moi-même, là, mais si tout le monde respecte la limite pour les interventions, on aura assez de temps à la fin pour pouvoir avoir une petite discussion. Alors, je vous remercie et j'ai hâte de vous entendre. Est-ce que vous vouliez nous expliquer les règles du jeu? Merci, Monsieur le ministre. Je pense que vous avez déjà tout dit. C'est moi qui vais vous avertir si vous êtes en train de dépasser, si vous approchez les 5 minutes, que vous avez dépassé les 3 minutes. Il y a aussi, bien entendu, le chronomètre aussi. La séance doit durer 90 minutes. Si nous respectons tous les limites de temps, je pense que nous devrions avoir assez de temps pour justement avoir une bonne discussion. Alors, c'est ça. On fera un tour de table. Respectez la limite de 3 à 5 minutes. Après ça, il y aura une discussion ouverte et libre. Et peut-être même un débat. Alors, n'oubliez pas d'éteindre vos téléphones cellulaires, s'il vous plaît, pour ne pas causer de problèmes avec le système de son. Alors, M. Sacheville, allez-y, s'il vous plaît. Bonjour, je m'appelle Serge Sacheville, je suis le vice-président des affaires institutionnelles de Québécois Média. Tout d'abord, je tiens à remercier le ministre Clément Témoin de nous avoir permis de venir leur parler de cette question qui c'est un sujet très important pour Québécois Média. Québécois Média est au milieu des problèmes qui sont causés par justement les contrefaçons et toutes sortes de problèmes de droits d'auteur. Il y a d'autres effets. Ici au Canada, qui sont les plus importants producteurs de contenu au Canada, avec des centaines d'articles, de journaux, de stations, de radio, de télévision, des revues, des maisons d'édition, des sites web qui font partie de la bannière canoe.ca, entre autres. Depuis les dernières années maintenant, il y a toute cette révolution sans précédent de contenu. Cette révolution technologique qui a déjà renversé toute l'industrie et nos modes de vie. Ça a touché tous les aspects de la vie, mais dans notre cas, surtout nos journaux et nos postes de télévision. Pour nous, le projet de loi C-61 même si ce n'est pas parfait, au moins va moderniser le Canada comme d'autres pays industrialisés et la mise à jour de la législation des droits d'auteur. Le projet de loi 61 aurait établi clairement qu'il est contre la loi de partager les fichiers sans autorisation préalable. Cette réforme de la législation canadienne reflète le besoin d'équilibrer les besoins des détenteurs de droits d'auteur contre les utilisateurs, de sorte à permettre aux Canadiens de profiter de leurs œuvres, de promouvoir l'innovation et de protéger le droit d'auteur sur le contenu disponible sur Internet. Établissement de nouveaux règlements pour la création de nouveaux droits et de protection, les dispositions relatives aux responsabilités des FSI nous permet d'adapter la loi aux évolutions technologiques de sorte que les politiques canadiennes respectent celles des autres pays. Il est grand temps que le Canadien respecte les traités de la OMPI. Il faut que le Canadien offre une protection juridique aux droits de propriété intellectuelle pour encourager les entreprises à investir dans ce pays. La propriété intellectuelle est un aspect central de l'économie numérique. Si nous ne protégeons pas cela comme il faut, les investisseurs s'en iront ailleurs dans des pays qui ont de meilleurs systèmes de protection juridique. Le gouvernement canadien a dit dans ce projet de loi que les FSI ne sont pas responsables des contrefaçons et des violations des droits d'auteur chez leurs abonnés. Et donc, il y a l'approche et l'avis et Québécois Média approche l'idée d'avis. Le système proposé dans le projet de loi C-61 permet aux FSI canadiens de miser sur la croissance et l'innovation et de promouvoir le développement de la nouvelle économie sans le fardeau qui entrave la compétitivité. En créant le juste équilibre entre les intérêts des citoyens qui utilisent la technologie numérique, les créateurs de contenu, les FSI, proposent des modifications à la loi sur le droit d'auteur pour que les lois canadiennes s'adaptent à ce nouvel environnement numérique. Il n'est pas nécessaire de réglementer Internet pour que tous les utilisateurs soient responsables. Et il faut que le contenu canadien prenne sa place sur le Web. Cela étant dit, Québécois Média croit que les FSI devraient en faire davantage, mais sans l'intervention ni de l'organe de réglementation ni du Parlement. Il faut être redevable non seulement à ses actionnaires, mais aussi en tant que citoyen, ne peut pas ignorer les problèmes de piratage qui finissent par nuire aux possibilités de survie pour les détenteurs de droits. Les FSI doivent s'engager en discussion avec toutes ces différentes organisations comme partenaires pour permettre à mieux protéger le contenu dans ce nouvel environnement médiatique. Les FSI doivent être des participants actifs dans la définition des nouveaux modèles d'affaires qui permettrait aux producteurs de contenu et aux détenteurs de droits de financer leur production. Ce sont toutes sortes de solutions peuvent être envisagées, mais il est sûr que la confrontation entre les FSI et les producteurs de contenu et les détenteurs de droits doit s'arrêter. Il faut continuer à travailler ensemble. Il faut commencer à travailler ensemble pour continuer à créer et à protéger ce qui a été créé ici au Canada. Merci. Merci. Bonjour, je m'appelle John Lawford. Je suis du Public Interest Advocacy Center, un organisme à but non lucratif qui offre des services et des conseils juridiques aux consommateurs vulnérables. Nous vous remercions de nous avoir permis de venir vous adresser la parole ce soir. J'ai un document avec moi ici, un document de discussion co-rédigé par la clinique ainsi que On Rights Canada et Options Consommateurs. Je vous laisse une copie. Et notre document de discussion est aussi affiché sur Internet et nous vous l'avons présenté déjà aujourd'hui. Nous suivons ces consultations depuis plusieurs années maintenant avec grand intérêt et nous avons constaté que lors de la table ronde à Vancouver, l'Entertainment Software Association ont suggéré que des mesures de protection technique et technologique sont une bonne idée. Nous ne sommes pas du tout d'accord. Nous pensons que les TPM sont à 99 % du temps quelque chose de très négatif pour les consommateurs. Nous ne voyons pas pourquoi il faudrait avoir des lois contre le détournement, le contournement. Et si vous voulez en fait punir ceux qui sont coupables. la loi sur le droit d'auteur a déjà des sanctions pour la contrefaçon et nous ne voyons pas pour elle pour avoir porté atteinte au droit d'auteur et inutile de rajouter un deuxième palier à notre niveau. Si c'était appliqué de cette façon-là, ça finira par porter atteinte à la vie privée des consommateurs ainsi que le choix de faire aux consommateurs. S'il doit y avoir de telles lois, de rajouter la loi sur le droit d'auteur, il ne faut pas minimiser l'impact sur les consommateurs canadiens. Les consommateurs doivent avoir le droit de contourner les TPM pourvu que leur accès ne porte pas atteinte au droit d'auteur, ne soit pas en violation du droit d'auteur. Autrement dit, le fait de contourner ce principe, de sorte que dans un contrat, cela dit que vous ne pouvez pas contourner la mesure de protection technique, même si la loi s'exprime autrement. Nous voudrions que la loi stipule que cela l'emporte sur toute autre clause du contrat. Et pour ce qui est des consommateurs, et nous croyons que vous l'entendrez dire dans ces réunions, c'est que vous devriez permettre de changer le temps, le format, et que ces droits sont importants pour les consommateurs. C'est un droit des consommateurs qui devrait être reconnu. Ça fait partie du juste équilibre que vous tentez d'établir. Parce que là, on parle de mesures protectrices additionnelles, mais les consommateurs aussi ont besoin d'être protégés. Quelques autres commentaires. Nous sommes en faveur de l'avis actuel pour la procédure. Nous pensons qu'il est approprié que l'avis de session d'affichage risque de porter atteinte à la liberté d'expression, l'innovation. Enfin, nous avons une autre préoccupation et c'est que les FSI vont devenir responsables d'aller de courir après ceux qui sont en violation de leurs droits. Ceux qui vont à l'encontre du projet de loi C-46 ou 47, et dans cette situation, vous pouvez demander de l'information sur les abonnés si vous êtes la police ou un autre tel organisme. C'est une infrastructure qui se fait développer et ça pourrait être intégré ou d'autres associations pourraient demander de l'information sur les abonnés qui est recueillie à travers ce mécanisme. Nous croyons donc que cette fonction ne devrait pas faire partie de la politique relative aux droits d'auteur. Enfin, nous tenons à souligner que, compte tenu que les droits des consommateurs sont partie importante de vos délibérations utilisées, qu'il faudrait permettre aux consommateurs de changer le temps et le format, de modifier le temps et le format pour en contrepartie aux droits qu'ils perdent. Et comme je vous ai dit, pour atteindre ce juste équilibre. Merci. Je m'appelle Jeremy DeBeer. Je suis un professeur de droit et comme universitaire, je publie des articles dans ce domaine depuis une dizaine d'années, depuis que l'on commence à parler des traités de l'OMPI. Très souvent, on parle de cela en termes de caricature, on parle de toutes sortes de pirates, etc. Je pense qu'il faudrait prendre du recul par rapport à ces positions plus extrêmes et commencer à parler de solutions qui sont axées sur le marché. Les caricatures qu'on vous présente, vous, les manchettes, évidemment, vous encouragent à développer des réformes législatives très rapidement. Mais ça ne représente pas un effort intelligent envers l'élaboration de politiques. Mais en disant que les lois canadiennes sont très vieilles, sont désuètes et ne peuvent pas contrer les réalités culturelles, en fait, n'est pas tout à fait vrai. En fait, les lois canadiennes sont parmi les meilleures au monde. Ça aide à créer notre milieu commercial et culturel parmi les meilleurs au monde. Il ne faut pas oublier cela. Il faut se mettre debout et le dire haut et fort que nos lois sont parmi les meilleures au monde. C'est sûr qu'on peut toujours les améliorer. Mais si on regarde comment il est possible d'améliorer ces lois, il faut comprendre que l'innovation et les décisions d'investissement sont le produit de différents facteurs que ceux qui contrôlent la créativité au 21e siècle. Ainsi qu'au 20e siècle, pour s'assurer à ce que l'économie numérique puisse s'épanouir comme nous le voudrions, il faudrait arrêter de voir les choses sous cet angle. cet angle vieux jeu. Voilà pourquoi ces consultations sont si importantes. Et je tiens à vous féliciter d'avoir lancé cette série de consultations nationales et publiques. Je suis ravie de pouvoir y participer, mais le fait de prendre des milliers de différentes positions et d'opinions pour en trouver une position, votre proposition serait, pour dire le moins, difficile. J'imagine que vous allez respecter certains principes. Voici les principes que je vous propose. D'abord, le respect. Presque tous les Canadiens tiennent beaucoup à la communauté de créateurs de contenu que nous avons, dont nous jouissons ici au Canada. Et ils savent qu'ils sont très talentueux. Mais je ne pense pas qu'il faudrait faire de cela une approbation des expériences américaines qui se sont avérées, franchement, un échec jusqu'ici. Je vous parle plus particulièrement des protections législatives et des mesures de protection technologique. Je pense qu'il s'agit probablement de la question clé pour ce gouvernement en décidant comment ils vont mettre en œuvre les traités de l'OMPI. Je ne crois pas que les systèmes de gestion des droits numériques sont apocalyptiques, mais je pense que toute entreprise qui veut continuer à exister d'ici à 5 ou 10 ans doit comprendre qu'il ne s'agit pas d'une bonne stratégie commerciale. Le fait de créer un régime législatif maintenant pour un modèle commercial qui est déjà désuet n'est pas logique et ne cadre pas, ne s'aligne pas avec les objectifs de qui soit d'être à la quête de solutions durables et à long terme. Je pense que ces dispositions auraient des répercussions inattendues. Ça découragerait tant l'innovation que le commerce. Ça créerait des barrières, des obstacles artificiels pour cette nouvelle économie axée sur les réseaux.
Vaut mieux se concentrer sur un système volontaire, rationaliser ce système pour avoir une innovation commerciale. Je pourrais soulever d'autres questions. Je n'ai pas beaucoup de temps, donc je vais en mentionner un de plus. Le deuxième principe qui fera le consensus sera certainement que les consommateurs, les éducateurs, les innovateurs, les compagnies technologiques ont besoin davantage de marge de manœuvre. Je pense qu'il faut être juste quand même, et ce qu'il nous faut faire, c'est changer l'approche telle qu'enchâssée dans le C-61. En réalité, les dispositions sont assez bizarres concernant les vidéocassettes. C'est ce qui arrive lorsqu'on dresse de longues listes. À mon avis, la solution la plus durable doit être neutre sur le plan technologique et on devrait avoir des grandes catégories plutôt que des listes détaillées et ainsi tous les intéressés pourraient collaborer ensemble, adresser une liste de meilleures pratiques ou de pratiques exemplaires dans le commerce. J'espère qu'on pourra étoffer ce point dans les mémoires écrites. Merci. Avant de donner la parole à M. Wells, je dois vous dire que vous avez tout à fait raison. Si l'interprète regrette, il y a l'interférence d'un BlackBerry qui nous empêche de fournir l'interprétation. Vous pouvez donc nous soumettre des mémoires écrites.
Thank you, ministers.
Merci, Monsieur le ministre. Je suis responsable du contentieux au sein de l'Association des universités et collèges du Canada. Merci d'avoir invité la UICC à participer à ces consultations sur la réforme du droit d'auteur. En fait, nous représentons 94 universités et collèges universités canadiens, publics et privés à but non lucratif au Canada. Les universités canadiennes favorisent l'équilibre en matière de droit d'auteur. À titre d'importante productrice et utilisatrice d'œuvres protégées, les universités reconnaissent la nécessité d'un équilibre entre le paiement versé aux créateurs pour l'utilisation de leurs œuvres protégées par un droit d'auteur et l'accès du public à ces œuvres aux fins de recherche et d'enseignement. Il est essentiel de tenir compte des droits des utilisateurs, l'utilisation équitable et les exceptions légales dans la loi sur le droit d'auteur pour atteindre l'équilibre qu'on a souligné la Cour suprême dans l'affaire CCH 2004.
Sur la réforme du droit d'auteur. Deux des plus importantes portent respectivement sur la façon de moderniser la législation actuelle sur le droit d'auteur et sur la façon dont les modifications devraient être apportées pour résister à l'épreuve du temps. L'adaptation au milieu numérique des exceptions actuelles touchant l'éducation et les bibliothèques, de même que l'ajout d'une disposition prévoyant l'utilisation d'Internet à des fins éducatives, doivent être au cœur de la modernisation de la législation canadienne sur le droit d'auteur. Dans la mesure du possible, les modifications doivent respecter le principe de la neutralité technologique, de sorte que la législation ne soit pas liée à certaines technologies ou aux formats dans lesquels les œuvres peuvent se présenter. The Internet is one of the most important teaching and learning resources used in Canadian universities.
L'Internet constitue l'une des principales ressources d'enseignement et d'apprentissage auxquelles ont recours les universités canadiennes. Les étudiants et les professeurs doivent avoir l'assurance qu'ils ne violent pas la loi sur le droit d'auteur lorsqu'ils se livrent à des activités d'enseignement et d'apprentissage qui nécessitent le recours à des œuvres diffusées publiquement sur Internet. La loi sur le droit d'auteur devrait être modifiée de façon à indiquer clairement que les œuvres diffusées publiquement sur Internet peuvent être utilisées aux fins d'enseignement et d'apprentissage sans porter atteinte au droit d'auteur. Industrie Canada a commandé en 2004 une étude visant à évaluer les répercussions économiques de la réforme du droit d'auteur sur l'utilisation des technologies d'aide à l'apprentissage. L'étude a révélé que permettre aux éléments d'établissement d'enseignement d'accéder gratuitement au contenu légitime des sites Web publics permettrait à Internet de devenir une ressource d'apprentissage plus importante, contribuer au développement et à la croissance de l'apprentissage en ligne, un phénomène qui, selon bien des gens, serait la clé de l'adaptation. Les exceptions pour les fins éducatives doivent également être mises à jour afin de faciliter l'apprentissage assisté par la technologie, de même que l'éducation à distance, y compris la diffusion de cours sur Internet. La loi sur le droit d'auteur devrait autoriser les étudiants à suivre un cours en direct sur Internet ou à visionner ultérieurement l'enregistrement d'un cours. Les établissements d'enseignement devraient en outre être aussi autorisés à rendre l'enregistrement d'un cours accessible aux étudiants pour la durée de leur programme d'études et autoriser les étudiants à sauvegarder l'enregistrement d'un cours sur un ordinateur ou un autre appareil mobile pour consultation ultérieure.
L'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, l'OMPI, conférant de nouveaux droits aux détenteurs de droits d'auteur à l'égard d'une œuvre en ligne, soulève des préoccupations concernant la responsabilité des fournisseurs de services Internet canadiens en matière de droits d'auteur. L'AOCC appuie la démarche adoptée dans le projet de loi C-61 qui dégage les fournisseurs de services Internet de toute responsabilité lorsqu'ils agissent comme intermédiaires et a établi un système d'avis selon lequel un fournisseur de services Internet a l'obligation de transmettre à son client toute allégation d'infraction provenant d'un détenteur de droits d'auteur. Finally, an important overarching issue is the requirement of the WIPO treaties to provide adequate legal protections for the digital locks used by rights holders to protect copyright works. If new protections for digital locks are too strict, they could undermine users' rights to permit teachers, students, librarians to use legal copies of works in limited ways without infringing copyright. AUCC recommends that any legislated prohibition against the breaking of a digital lock should apply only where the lock is broken for a purpose that infringes copyright. And given the interest of time, I'll end my comments there. And once again, on behalf of Canada's 94 universities, I'd like to thank you for inviting us to participate in the roundtable.
My name is Rick Tyson. I work for the Canadian.
Je suis Rick Tyson. Je travaille pour l'Alliance des établissements d'enseignement. Je vais faire comme les étudiants, c'est-à-dire que je vais improviser étant donné les limites de temps. C'est certain qu'il faut en arriver à un équilibre dans le droit d'auteur, et ce, pour deux raisons. Tout d'abord, nous fournissons un contenu créatif, et les étudiants doivent pouvoir également participer à l'économie globale, mais il faut pour cela avoir une éducation post-secondaire. On doit utiliser parfois des œuvres associées à des droits d'auteur dans les établissements d'enseignement. C'est certain qu'il faut changer les lois sur le droit d'auteur, mais nous demandons que dans ces lois, on encourage la nouveauté, l'échange d'idées, la recherche. On doit toujours redéfinir les limites de la découverte dans un monde universitaire. Comment peut-on y arriver? Tout d'abord, je vais parler de l'apprentissage, du cyberapprentissage. Vous savez, il y a un virement pédagogique à l'heure actuelle. On veut utiliser les nouvelles technologies pour élaborer de nouvelles méthodes d'apprentissage pour rejoindre un plus grand public. Il y a également l'éducation à distance qui est touché par cet avancement technologique. Les gens veulent apprendre à vie et on veut que la population active puisse être bien formée, donc que les gens dans les régions éloignées aient accès à l'apprentissage. Ça prend donc une certaine flexibilité dans les lois sur le droit d'auteur. Davantage de professeurs et d'étudiants doivent pouvoir avoir accès à une technologie interopérable, c'est-à-dire qu'on doit avoir accès au matériel didactique, à des copies d'œuvres pendant les études plutôt que pendant un certain pendant un moment donné dans une salle de classe. Le projet de loi C-61 parle du transfert des études académiques dans les bibliothèques. Mais le C-61 limite l'accès à l'information. On dit qu'on ne peut que copier les œuvres. Que dire du contournement qui est utilisé? Et que dire du fait que nous, on a des données non tangibles et qu'on a besoin de ces données pour mener nos travaux de recherche? Vous savez, les serrures numériques inquiètent les étudiants car on a peur des règlements concernant le commerce juste. Donc, tout ce qui est fait à l'encontre de la loi, tout ce qui impose des limites à la gestion devrait permettre quand même aux étudiants de faire la conversion de format. Une fois de plus, je dois vous dire que comme on n'a pas beaucoup de temps, je ne pourrai pas tout dire et je vais conclure maintenant. Professeur de droit à l'Université d'Ottawa, merci de cette invitation. Merci de mener cette consultation. L'été dernier, j'ai écrit beaucoup sur la réforme du projet de loi C-61. Une de mes critiques, c'était le manque de consultation. Donc, cette rencontre est un pas dans la bonne direction. C'est sûr qu'il faut préserver le domaine public, parler des droits de la couronne et également avoir une différence entre les dommages-intérêts législatifs et les dommages-intérêts privés. Mais je voudrais revenir au défi du ministre Clements. Comment s'engager dans des réformes permanentes? Il faut avoir le principe de la neutralité technologique, une loi claire et flexible. Les gens vous ont parlé de l'importance de la neutralité technologique et du fait qu'il faut que ce soit plus clair pour que les Canadiens et les Canadiennes puissent respecter la loi sur le droit d'auteur. Mais le plus important, c'est encore la flexibilité, et ce, à trois égards. Tout d'abord, reconnaissons que la flexibilité permet à certaines dispositions de survivre pendant des décennies, car elles sont toujours adaptées aux changements économiques et technologiques. Il y avait déjà beaucoup de flexibilité dans la loi. C'est sûr qu'il y a eu la cause, l'arrêt CCH, mais il faut préserver quand même la flexibilité pendant cette ronde de réforme. La flexibilité nous permet de constater que ça fonctionne pour tous les intéressés. Les producteurs de films peuvent terminer leur travail, les auteurs, les artistes peuvent profiter des œuvres des autres, les étudiants peuvent mener à bien leurs études, les enseignants peuvent enseigner, les chercheurs mener leur recherche et l'entreprise lancer de nouveaux modèles innovateurs. La flexibilité, troisièmement, a une saveur internationale. Les autres pays ont des défis semblables à relever. Cela signifie que les traités internationaux, comme le traité de l'organisme international, doivent être respectés. On pourrait décider de suivre un seul modèle comme le modèle américain, mais ce n'est pas nécessaire si on veut respecter la norme OMPI. Donc, comment respecter ces principes de flexibilité, de neutralité technologique et de clarté? Et que dire des traitement équitable. On sait qu'il y a des problèmes à chaque jour. On enregistre des émissions, on change le format, les activités d'enseignement ne sont pas couvertes, l'innovation non plus. Le C-61 est allé dans la voie contraire à ma proposition. C'était précis sur le plan technologique. On parlait de VHS, de VPR. Donc, on parlait de l'enregistrement d'une émission de télévision ou encore on parlait d'exception pour l'éducation et le projet de loi manque de flexibilité. Ça prend une approche plus claire et plus simple. Vous pouvez ajouter deux mots. C'est-à-dire que la liste soit plutôt un exemple plutôt qu'une liste complète. On pourrait ainsi traiter de questions qui touchent les consommateurs, le milieu de l'enseignement ou le commerce. À mon avis, étant donné l'expérience récente, par exemple, Amazon a enlevé les livres de Kindle ou Bell met fin à son programme de vidéos en ligne, on sait qu'il faut faire attention du fait qu'il pourrait y avoir des abus au niveau du DRM. Il y a beaucoup de pression et on doit dire que le projet de loi C-61 va à l'encontre de ces principes. On interdisait l'utilisation de certains dispositifs. C'était volumineux, trop complexe et pas assez flexible. Ça allait même au-delà du traité de l'OMPI. Il y avait également des problèmes de contournement des lois sur la vie privée et autres. Il faut en fait que le contournement soit lié aux contrefaçons. Il faut respecter les textes de l'OMPI. Il ne faut pas avoir des listes d'exceptions, pas de précision technologique. Et il faut bien comprendre les cas clairs de contrefaçon.
My name is Violet Ford. I'm a lawyer by training. And
je suis Violet Ford, avocat de formation et responsable du Inuit Circumpolar. J'ai travaillé au sein d'un comité intergouvernemental sur l'expression culturelle et le transfert des connaissances au sein de l'OMPI. Je suis ici ce soir car les Inuits ont vu que le kayak, l'Inukshuk, ont fait l'objet de transferts culturels inappropriés. Au sud du Canada, c'est bien évident. On s'approprie la culture et les entreprises comme Shoppers Drug Mart utilisent l'Inukshuk à des fins dérogatoires afin de vendre leurs produits pharmaceutiques. La propriété intellectuelle inuit se voit dans l'art inuit. On parle d'un savoir traditionnel ici. Dans les histoires, les chansons, les poèmes, dans les sculptures, des sculpteurs inuits. Le savoir traditionnel s'exprime donc dans toutes ces œuvres. Ce qui nous préoccupe, c'est que la loi actuelle sur le droit d'auteur va à l'encontre de nos trois constitutionnels en vertu de l'article 35 de la Constitution. Nous avons des réclamations territoriales et des ententes dans lesquelles on parle d'autonomie économique, de bien-être culturel et de certains droits traditionnels. On a vu des contrefaçons aux droits d'auteur et ça va à l'encontre de l'autonomie économique. On ne peut pas mettre en marché nos produits comme les grandes entreprises qui imitent nos expressions culturelles. Nous avons constaté récemment ce qui est arrivé avec les Olympiques de Vancouver où on utilise encore une fois l'Inukshuk. Et j'ai ici un mémoire que je remettrai au personnel. Nous demandons bien précisément que toute réforme du droit d'auteur rapporteur tiennent compte de nos droits en vertu de l'article 35 de la Constitution canadienne et que cette loi soit assez flexible pour qu'on tienne compte des recommandations de politique du comité de l'OMPI sur les droits de propriété intellectuelle, surtout les droits de propriété intellectuelle des Autochtones et des Premières Nations. Merci de m'avoir donné l'occasion de prendre la parole ici ce soir. Je suis Paul Jones, je suis avec l'Association canadienne des enseignants universitaires, organisme national qui représente 6500 professeurs, libraires et chercheurs dans les collèges et universités partout au Canada. Merci de me donner cette occasion de prendre la parole et de m'exprimer sur la réforme du droit d'auteur. J'anticipais ce moment. Les enseignants et les chercheurs ont besoin d'avoir un accès à plein de matériel et ils en ont besoin pour le processus d'innovation. Les auteurs doivent également protéger leurs œuvres. Et donc, ça prend un équilibre entre les utilisateurs, les créateurs, les usagers. Souvent, on allait trop loin pour protéger les détenteurs et on pense qu'il devrait y avoir des amendements. Les trois principales idées, on se répète un peu naturellement. Tout d'abord, il faut tenir compte du fair dealing, c'est-à-dire le droit de faire des copies ou d'utiliser une œuvre dans certains cas. Il y a également le fait qu'on puisse utiliser ailleurs. Et cela s'appliquerait à des catégories comme des usages nécessaires. Il pourrait y avoir également des exceptions selon le genre. On ne veut pas qu'il y ait des exceptions par catégorie d'œuvre ou par type d'usager. Naturellement, il y a les serrures numériques dont on ne peut permettre le contournement que dans certains cas où il n'y a pas contrefaçon. Dans certains cas, on dit qu'il faut interdire complètement le contournement, mais à mon avis, ça prend un compromis. Troisièmement, il faut éliminer cette notion de dommage-intérêt juridique. On doit savoir que l'accès juste est nécessaire. C'est prévu dans la loi.
We'll be making a longer written submission.
Nous soumettrons un mémoire écrit suite à cette consultation et nous espérons que la loi sera améliorée suite à tout ce processus. Merci de l'occasion qui m'est donnée.
My name, excuse me.
Je me nomme Matthew Johnson. Je suis du Media Awareness Network. Media Awareness Network est un organisme à but non lucratif dont la mission est de fournir aux étudiants, aux enseignants et aux parents les outils qu'il leur faut pour assurer que les jeunes et les enfants au Canada comprennent et s'implique dans les médias par entière. Il faut comprendre, il est très important que les enseignants aient le droit d'utiliser et d'avoir recours aux différentes formes médiatiques en salle de classe. Il est juste de dire que l'environnement médiatique dans lequel nous vivons à l'heure actuelle n'aurait jamais pu être imaginé par ceux qui ont rédigé les premières lois, ni ceux qui l'ont modifié en 1985. Les jeunes d'aujourd'hui sont absolument submergés dans un environnement médiatique néo-médiatique et leur permettant d'interagir, de créer, de distribuer leur propre contenu ainsi que d'être des consommateurs des médias. Dans ce monde, il faut comprendre à fond les médias et c'est comme ça qu'on permettra aux jeunes et aux enfants d'avoir les compétences d'analyse critique pour pouvoir atténuer les risques et pour qu'ils comprennent à fond et puis, ce qu'ils voient et ce qu'ils subissent. Ça aide les jeunes et les enfants de mieux comprendre les répercussions économiques, culturelles, professionnelles, sociales et politiques, l'effet sur leur vie quotidienne. Ça leur permet de s'impliquer dans les médias de façon active et d'en faire
faire une utilisation responsable. L'importance de cette forme d'éducation médiatique est démontrée par le fait qu'au cours de depuis les 20 dernières années, c'est devenu un aspect de, fondamental dans tout, du curriculum dans toutes les provinces. Il faut comprendre les médias. C'est une compétence essentielle pour pouvoir réussir dans l'économie axée sur le savoir. Le Canada est chef de file mondial en intégrant cela au curriculum dans nos salles de classe. Mais certains aspects de la loi sur la protection du droit d'auteur permettent aux enseignants d'entreprendre certaines des activités authentiques qu'il leur faut faire. Nous croyons que les exceptions éducatives doivent être préservées ainsi que faire, et c'est aussi pour l'utilisation juste. Les enfants doivent pouvoir étudier des produits médiatiques comme les annonces, les films, les émissions de télévision et de radio, ce qui doit permettre aux enseignants et aux étudiants d'afficher ou de visualiser ou de copier toutes sortes de différentes œuvres, non pas juste pour un seul examen, mais comme pratique courante en salle de classe. Je ne vous parle pas de l'utilisation des médias pour divertir les enfants en salle de classe ou dans une école, ou même pas toute une œuvre entière, mais la capacité d'utiliser des extraits. La capacité d'avoir recours librement à toutes sortes de formes médiatiques. Les enseignants ont besoin de pouvoir le faire en toute confiance de cause. Aussi, la création et la reconstruction des médias est un pilier clé de l'éducation médiatique. Donc, les étudiants devraient avoir le droit de déconstruire et développer leur propre produit satirique en salle de classe. Parfois, ce sera du mixage, parfois, ce sera des mosaïques. Le fait d'interdire aux étudiants d'avoir les outils, la capacité de pouvoir manipuler ces produits médiatiques, c'est comme si on leur enseignait à lire sans leur enseigner à écrire. Les étudiants et les élèves devraient pouvoir prélever des extraits et des échantillons pour pouvoir en développer d'autres produits, en faire d'autres produits. Il faut continuer à respecter les normes élevées que nous avons en matière d'éducation dans ce pays. Donc, les enseignants et les étudiants devraient pouvoir changer de format pour des raisons éducatives. Par exemple, compiler plusieurs extraits pour les étudiants en salle de classe afin que cela se produise, et c'est sûr que ces exceptions éducatives ne doivent pas être atteintes par d'autres clauses, ni de nouvelles clauses qui couvrent les serrures numériques, à titre d'exemple. Ça peut vous sembler comme des amendements importants à la loi actuelle, mais je souligne que ça ressemble beaucoup à la loi sur protection des droits d'auteur qu'elle existe à l'heure actuelle tant aux États-Unis qu'au Royaume-Uni, où les lois sur les droits d'auteur ont des dispositions semblables dans les deux cas. Enfin, j'aimerais vous dire que les Canadiens, et particulièrement les jeunes Canadiens, doivent être éduqués sur les droits d'auteur et d'autres questions relatives à la propriété intellectuelle. Nous savons que le public, de façon générale, sont très mal renseignés au sujet des questions relatives à la propriété intellectuelle. Et moins le public est renseigné et éclairé, plus le débat sera polarisé, avec des positions trop extrémistes. Les jeunes doivent comprendre la propriété intellectuelle, ainsi que le droit international. Les jeunes doivent aussi comprendre leur propre droit comme créateurs de propriété intellectuelle. Il nous faut une loi sur le droit d'auteur qui permettrait tant aux enseignants que les élèves et les étudiants de faire toutes ces choses si importantes. Merci. Micro, s'il vous plaît, l'interprète n'entend pas. Merci. Bonjour, je me nomme Brian Dejour. Je travaille comme photographe au Musée Royal de l'Ontario, et je suis là pour représenter la Coalition canadienne des photographes. J'aimerais vous remercier de m'avoir permis de venir vous parler pendant cette consultation. Aussi, la Coalition aimerait vous offrir des commentaires écrits avec nous fournissant plus de détails sur notre position. Nous applaudissons le dernier projet de loi du gouvernement. Nous pensons que ça crée un juste équilibre entre les besoins des photographes et les besoins
besoins des gens, de faire une utilisation personnelle de nos images. Notre coalition représente les intérêts de deux associations professionnelles, soit les photographes professionnels du Canada ainsi que et l'Association canadienne des photographes et des utilisateurs en communication. Notre groupe représente entre ces deux associations 95% des petits commerçants et des petites entreprises. Notre préoccupation principale, c'est comment la loi actuelle sur le droit d'auteur accorde à l'auteur le premier droit d'auteur. Mais les photographes de la Commission sont exemptés de cet article de la loi, contrairement à d'autres créateurs de contenu. Ensuite, cette disposition place les photographes canadiens dans une position très défavorable par rapport à leurs homologues partout ailleurs au monde. En France, en Australie, aux États-Unis, par exemple, les photographes ont le premier droit d'auteur sur les photos qu'on leur demande de prendre. Ça représente de plus en plus de revenus pour d'autres utilisateurs de ces images. Les photographes qui participent au marché commercial peuvent vendre leurs œuvres partout au monde. Si vous vous rappellerez que le printemps dernier, nous avons accueilli avec plaisir vos propositions. Nous félicitons le gouvernement canadien d'avoir reconnu les besoins des photographes. Il faut continuer à réglementer. Nous espérons que les lois futures vont continuer à reconnaître les photographes comme étant des artistes tout comme les autres et des créateurs de contenu. Nous vous remercions. Bonjour, je me nomme Diana Nemiroff. Je représente l'Association canadienne des musées et je suis aussi membre du Canadian Art Museum Directors Organization. Je n'ai pas de texte préparé et nos associations vont soumettre des propos écrits. Mais j'aimerais quand même vous dire certaines choses qui n'ont pas encore été soulevées jusqu'ici, puisque ces questions portent particulièrement sur ce domaine à but non lucratif. Les musées, bien entendu, travaillent en collaboration directe avec les créateurs, souvent de façon très collaborative, et nous faisons le pont aussi avec le public. Nous sommes toujours en train de créer un juste équilibre entre ces deux fonctions, de sorte que les dispositions relatives aux droits d'auteur nous préoccupent énormément. Et en fait, je vous dirais que depuis 1988, les modifications à cette loi ont fait de cette loi un outil de plus en plus restrictif pour notre secteur. Voici quelques exemples. D'abord, il y a la collection permanente des musées. Ce sont des œuvres que nous avons soit achetées ou acquises par le biais de dons. Dans la plupart des pays, à l'exception du Canada et des États-Unis, depuis 1988 au Canada, ce que nous appelons ici au Canada le droit d'exposition est exempté pour ces œuvres qui font partie de la collection permanente. Ce n'est pas le cas ici, ce qui signifie que nous avons un fardeau économique additionnel dans les cas où nous voulons exposer la collection permanente. Pourquoi voulons-nous l'exposer? Parce que nous voulons raconter aux Canadiens l'histoire de leur pays, de leur culture et de notre place dans le monde. C'est donc très difficile pour nous de créer ce juste équilibre entre les différents intérêts. Ensuite, parlons de l'édition. J'ai dit que nous étions des organisations à but non lucratif et de façon générale, lorsque nous créons, par exemple, des catalogues d'exposition ou de création, nous les vendons au coût de production. Je sais que ça peut sembler ridicule comme décision d'affaires, mais nous voulons que le tout soit accessible au public. Le fait de payer pour des reproductions est pour nous un fardeau. C'est un fardeau que nous vivons depuis longtemps et nous nous y sommes adaptés. Mais contrairement au domaine de l'édition, où il y a les dispositions relatives aux droits de prêt, les profits doivent provenir de la caisse de chacun des musées en question. Par exemple, à Vancouver, nous avons un petit musée avec 3 employés permanents. Nous avons une collection de 29 000 œuvres. Imaginez-vous donc le fardeau que cela représente. Et maintenant, j'aimerais passer à l'environnement numérique. C'est sûr que les musées comme d'autres
les organismes du secteur public et comme d'autres utilisateurs du secteur public veulent profiter de cette nouvelle technologie. Nous le faisons, entre autres, à travers le site Web et en affichant nos collections en ligne. Des emplacements, entre autres, il y en a un qui est organisé par un réseau qui nous offre des outils de recherche très, très utiles. C'est une façon importante de promouvoir la loi canadienne, non seulement l'art canadien, pardon, ici au pays ainsi qu'à l'étranger. Pour revenir à mon exemple de 29 000 objets et œuvres, ce sera quelque chose si nous rajoutons les illustrations aussi avec nos répertoires de collection. Mais on parle ici des arts visuels. Est-ce logique d'avoir un catalogue qui vous donne de l'information avec les dimensions, le titre, et mais aucune image? Ça fait toute la différence au monde pour les chercheurs ainsi que pour le grand public d'avoir accès à ces images. Donc, nous sommes très préoccupés par les dispositions qui permettraient la souplesse et un meilleur équilibre entre les créateurs avec qui nous avons toujours travaillé en étroite collaboration et les musées et les utilisateurs qui jouiront éventuellement de toutes ces œuvres. Nous voulons que les œuvres soient de plus en plus accessibles de façon générale et je pense que c'est un manque de vision en partie qui fait en sorte que nous n'avons pas encore réussi à établir ce juste équilibre entre les différents intérêts et les différents aspects du droit d'auteur. Merci. Bonjour, bonsoir. Je me nomme Rosalie Fox. Je représente l'Association canadienne des bibliothèques juridiques. Je suis ancienne présidente, mais je ne suis pas membre du comité sur le droit d'auteur. Je suis ici sans avoir pu me préparer, puisqu'on m'a invité à venir vous adresser la parole hier. Il y a des gens qui n'avaient pas beaucoup de gens pour se préparer. Nous sommes désolés, mais nous voulions avoir autour de la table le plus grand nombre d'intervenants possible. Vous pouvez certainement nous fournir vos commentaires écrits. Oui, alors j'aimerais commencer par en disant deux choses pour que mon association ne soit pas horrifiée par mes propos. Et c'est sûr que tout ce que je vous dis ne représente en rien ce que mon employeur dirait à ma place. Alors, mais j'aimerais formuler quelques commentaires de façon très générale et peut-être que je vous parle davantage d'une perspective de citoyenne canadienne plutôt que de représentante de mon association de toutes les bibliothèques juridiques. J'aimerais souligner l'objectif de base des bibliothèques et surtout les bibliothèques juridiques, où l'accès à l'information juridique et la connaissance du droit est un aspect central de la société. Nous devons fournir l'accès juste et équitable à cette information juridique. Et il y a le besoin d'avoir de la bonne information authentique et il nous faut aussi éduquer nos clients et parfois même les avocats au sujet de la loi sur les droits d'auteur. Mais aussi, il faut s'assurer à ce que les gens qui se rendent chez nous aient les compétences requises pour pouvoir traiter de toute cette information. Tout ça, ça fait partie de ce que nous faisons à titre d'association. Nous voyons comme étant des partenaires dans l'éducation de ces clients, dans l'application de la loi. Nous voyons de plus en plus que nos mains sont liées par le mode d'accès à l'information juridique en format numérique. Il s'agit d'un environnement qui est en évolution rapide. Les facteurs économiques sont une raison importante de cela pour la distribution de l'information juridique, mais de plus en plus, nos bibliothèques ne sont pas des dépôts de matériel imprimé. Mais nous ne sommes plus les propriétaires de l'information numérique et les restrictions qu'on nous impose maintenant sont de plus en plus contraignantes que si nous avions accès à tout ce matériel en format imprimé. Donc, je vous encourage à
élargir la loi sur le droit d'auteur afin nous offrir plus d'exemptions pour nous permettre de préserver le matériel numérique pour des fins d'éducation. Dans l'environnement actuel, nous trouvons qu'il y a trop d'obstacles qui se dressent devant nous. Il nous faut pouvoir fournir de l'information qui existe déjà dans le domaine public sous forme numérique pour qu'on puisse les conserver dans nos répertoires sans y perdre accès après que nos licences soient expirées ou que les maisons d'édition ne nous fournissent plus accès au matériel à cause de décisions commerciales qu'ils ont prises. Alors, je pense que je m'en tiendrai là. Je m'en tiendrai à ces commentaires, mais la préservation et l'accès au matériel numérique est très important pour nous. Je sais qu'il y a des problèmes au sujet de Google Books, mais bon nombre d'entre nous avons utilisé les archives avant l'Internet. Et c'est très semblable, en fait, les microfiches où on capte beaucoup d'informations. Peut-être que ça s'est protégé par la loi sur le droit d'auteur, mais il y a quand même beaucoup de choses qui ont disparu entre-temps. Donc, il faut trouver des moyens des créatifs de continuer à assurer l'accès public à toute cette information qui existe dans le domaine public. Bonjour, je m'appelle Laura Murray, je suis prof d'anglais à Queens et j'ai co-rédigé aussi un guide pour les citoyens. Et j'ai aussi un site web faircorporate.ca que j'ai lancé en 2003. Un de mes projets de recherche principaux à l'heure actuelle, c'est une étude des journaux quotidiens dans les années 30 et 40. C'était une époque révolutionnaire. En 1883, Benjamin Day a commencé à vendre ses journaux pour un sou. Et les autres étaient furieux puisqu'ils vendaient le leur 6 sous. Les choses ont changé et c'est le journal d'un sou qui est devenu la norme, ce qui rendait cette forme d'information disponible à tous, accessible à tous. Il y avait beaucoup plus de matériel emprunté qu'original. Aucun des articles n'était protégé par le droit d'auteur. Personne n'était payé. Personne ne se plaignait. En fait, à ce moment-là, les règlements favorisaient les échanges entre les journaux en permettant la diffusion de l'information qui était requise pour une démocratie et une économie qui était en plein essor. Les rédacteurs en chef étaient là avec leur grand ciseau. Ils étaient toujours prêts. Ils se plaignaient si les articles arrivaient en retard. C'est donc un manque de réglementation qui a favorisé l'épanouissement à ce moment-là. Il y avait un système de normes et de pratiques parmi les rédacteurs sur la façon comment il fallait couper et coller, comme on faisait littéralement, convenait à tous. Je dois vous dire que les politiciens britanniques, les éditeurs et les auteurs étaient moins heureux, bien entendu. Mais les États-Unis les ont ignorés jusqu'à la fin du 19e siècle et même au début du 20e siècle, de sorte que les intérêts nationaux l'emportaient toujours. Je parle maintenant des 1830 aux États-Unis, non pas parce que la situation est identique à la nôtre, mais ça démontre que le droit d'auteur est l'un parmi tant d'autres outils pour assurer l'épanouissement des industries culturelles. Il se peut que ce soit la meilleure façon de légiférer davantage ou non. Il ne faut pas toujours se plier aux intérêts spéciaux.
Je prétends que tout changement à la loi doit être fait dans un esprit d'équilibre entre les détenteurs et les utilisateurs et en tenant compte d'autres options de politique qui favorisent l'innovation. Et je suis sûre que vous êtes rappelé à cette réalité grâce à vos mandats. Il faut donc traiter du contexte culturel et économique canadien et soit d'être rédigé pour que le commun des mortels puisse le comprendre et le respecter. Ça a déjà été dit par d'autres, mais j'insiste sur l'importance de l'utilisation équitable. On doit pouvoir atteindre ces objectifs. Les articles 3 et 29 de la loi sur le droit de l'auteur sont logiques. L'utilisation équitable permet que le droit d'auteur soit constitutionnel, sinon ce serait un empiétement sur le droit d'expression. On peut utiliser le droit d'auteur pour rendre les gens responsables. Et naturellement, ça peut être utilisé dans d'autres contextes. On peut utiliser cela pour faciliter le flux d'informations. Et ça touche les journalistes. Ça peut être utilisé pour avoir des assises pour l'innovation, comme c'est fait dans les études et la recherche. On ne peut pas toujours reposer sur le oui-dire en droit, en recherche ou ailleurs. Ça prend des preuves empiriques de l'information. L'utilisation équitable permet aux usagers de faire leurs travaux tout en respectant les dispositions légales. La Cour suprême a déjà parlé de l'équité aérienne et est automatique dans l'utilisation équitable. Donc, je pense que dans la loi, on devrait ajouter les mots « tels que » dans la catégorie des utilisations équitables pour que les artistes puissent l'invoquer. Deuxièmement, inclure le test de l'utilisation équitable que l'on voit dans l'arrêt CCH. Trois, ne jamais permettre au DRM d'avoir préséance sur le domaine public ou l'utilisation équitable. Et quatrièmement, éviter les exceptions tatillons et laisser l'utilisation équitable faire son travail. Les exceptions au C-61 pour les prêts entre les bibliothèques limitera les gens et limitera les pratiques actuelles. En fait, il y a des dispositions qui sont inutiles. On pense que les droits appartiennent aux détenteurs, à moins de la preuve du contraire. En fait, on a des droits précis à l'article 3, mais c'est toujours une décision de politique de savoir qu'est-ce qu'on fait avec ces nouveaux droits découlant des nouvelles technologies. Pour conclure, je pense que le droit d'auteur semble être une façon efficace pour le gouvernement d'encourager l'innovation dans les arts, mais il semble que ça coûte rien comme d'autres mesures plus directes qui pourraient appuyer les arts. Et il y a les permis, l'usage, mais si on se contente de cela, on n'encouragera pas la valeur commerciale de la créativité. Il y a des formes de créativité qui seront laissées pour compte et ça augmentera le coût de l'éducation et le coût d'entretien des bibliothèques. Nos partenaires commerciaux ne sont pas engagés sur la même voie. Il faudrait donc y penser à deux fois lorsque l'on rédigera cette nouvelle politique ou cette loi et tenir compte de l'utilisation équitable. Merci. Je suis David Kibaud. Je suis consultant expert conseil à Ottawa. Je ne représente personne sauf moi-même. Je ne considère pas non plus que je sois un expert en droit d'auteur. Je suis ici parce que j'étais auteur d'une étude sur l'impact de la technologie numérique sur la chaîne de valeur du régime culturel, étude qui a été menée par le ministère du Patrimoine il y a quelques années. Naturellement, on avait traité du droit d'auteur dans chacun des secteurs d'activité culturelle. Je voudrais vous proposer une approche tout à fait différente. La nature de l'analyse de la chaîne de valeur est telle que cela nous amène à des conclusions qui diffèrent un peu de ce qui a été dit ici aujourd'hui. J'aimerais que vous envisagiez trois principes dans cette réforme. En fait, il y en a deux qui ont déjà été annoncés avec lesquels je suis d'accord. Le premier principe, de dire que le système fonctionne très bien dans l'ensemble lorsque les produits culturels peuvent se rendre jusqu'au consommateur sans qu'il y ait de superficiel vigile et lorsqu'il y a un rendement sur la valeur économique pour tous les intervenants le long de la chaîne. Et ce n'est pas toujours le cas. Le grand problème à l'heure actuelle, c'est le piratage, la distribution de contenu gratuit. Mais on continue quand même à payer 50 $ aux fournisseurs de services Internet pour avoir accès à ce contenu gratuit, mais les producteurs de contenu, eux, n'en profitent pas. C'est ce qu'on appelle une interruption de la chaîne de valeur. C'est dans le cas pour les œuvres musicales et pour d'autres types d'œuvres. Donc, les créateurs vont continuer à crever de faim si on n'apporte pas des changements importants. À mon avis, à notre avis, mais à mon avis, puisque je suis le seul à être ici, c'est pas George Kavanaugh, le co-auteur, qui est là non plus. En fait, nous ne croyons pas que les poursuites soient une source de revenus, mais le partage des dossiers peut être géré. Et il y a une association canadienne qui a fait une proposition à cet égard et ça devrait être pris au sérieux, que ce soit volontaire ou pas. Le deuxième principe, c'est qu'il faut que les usagers sachent que la valeur du produit se rapproche de la valeur réelle. Souvent, il y a une procuration de valeur et ça, c'est devenu un peu désuet avec le monde numérique. La valeur est acceptée lorsqu'il y a une consommation, lorsqu'on entend la musique, on lit le livre, on voit le film. Certains tarifs reposent sur les représentations, comme par exemple le fait de jouer une chanson à la radio. Ça, c'est accepté, c'est un droit d'auteur par procuration. Mais dans certains cas, on n'est pas très content. Certains des tarifs actuels reposent sur la copie d'œuvres. À l'époque, c'était la seule valeur par procuration, et c'est encore le cas, par exemple, pour un livre. On ne peut pas mesurer la lecture d'un livre, donc on peut avoir une valeur par procuration en copiant le livre. Mais il y a d'autres exemples qui ne sont pas logiques, comme le transfert de médias. Et quand on veut parler de traitement équitable, qu'est-ce que ça peut changer si on compile le mot sur différentes plateformes? L'important, c'est la consommation. Est-ce qu'on est prêt à payer pour consommer? Ce n'est pas le nombre de copies qu'on a dans la bibliothèque. En fait, on devrait profiter de la technologie numérique pour mesurer la consommation et reposer le tarif du droit d'auteur sur cette consommation. Le troisième principe, c'est que ça prend de l'innovation dans tous les secteurs de biens culturels. Certaines pratiques découragent l'innovation. On devrait donc les changer. L'innovation, c'est un mot, mais qu'est-ce que j'entends par là? J'entends pas un contenu gratuit. L'innovation a lieu lorsque les modèles d'affaires sont nouveaux, lorsqu'il y a un rendement qui encourage l'investissement et l'investissement encourage la création de talents. Un de ces changements, c'est qu'on ait des structures tarifaires rapidement. On rate des occasions parce que ça prend tellement de temps pour établir les prix et les droits. Il faudrait également permettre davantage d'initiatives de la part des usagers. Les usagers pourraient faire des propositions concernant des droits permanents. Souvent, les détenteurs de droits attendent parce qu'ils ont peur des conséquences. On ne veut pas diminuer les pouvoirs des détenteurs de droits d'auteur. Mais si les usagers pouvaient engager le processus de droits d'auteur, il y aurait davantage de modèles innovateurs dans le monde numérique. Ces trois principes sont fondamentaux et on devrait s'en inspirer lors de la rédaction du droit. Dans certains cas, il y a des pratiques qui dérangent. Mais ça prend quand même des principes de base. On ne peut pas changer le droit d'auteur si on ne sait pas quelles sont les réformes qui sont progressives et quelles sont celles qui vont enchâsser des pratiques contre-productives. C'est tout ce que j'avais à dire, mais je voudrais me prononcer sur certaines choses qui ont été dites ici. On parle beaucoup d'utilisation équitable et de l'élargissement de cette notion. Mais pour ce qui est du DRM, je dirais que ça ne sert à rien d'avoir des lois qu'on ne peut pas mettre en application. Merci. Bonjour. Je suis Rana Levy. Je suis avocate et directeur des politique à l'Agence des droits d'accès. En fait, nous voulons faciliter l'accès, le guichet unique aux créateurs canadiens et aux détenteurs de droits d'auteur pour qu'ils puissent profiter de leurs œuvres.
Créateurs et éditeurs pour qui leur gagne-pain dépendent sur un juste équilibre entre les droits des titulaires de droits d'auteur et les besoins des utilisateurs d'accéder aux œuvres protégées. I represent more than 8,000 creators and publishers.
Je représente plus de 8,000 créateurs et éditeurs dont le gagne-pain dépend de l'équilibre entre leurs droits de créateurs et détenteurs de droits et les droits des usagers. Le gouvernement utilise ce principe dans l'élaboration de la loi. Mais qu'est-ce qu'on entend par équilibre dans le monde d'aujourd'hui? Si on copie 5 pages d'un livre pour son usage dans la salle de classe, eh bien, est-ce que ça, c'est un usage sans conséquence pour les détenteurs? D'autres diraient que ça respecte le principe de l'équilibre. C'est une utilisation équitable. On ne devrait pas avoir à payer pour ça. Maintenant, considérons le fait qu'il y a des milliers de professeurs qui utilisent cette technique. Alors là, ça change les choses. On parle d'usages multiples, répétés. Et dans l'ensemble, ces usages de photocopies représentent des centaines de millions de pages de copies d'œuvres protégées à chaque année. La Commission du droit d'auteur du Canada a décidé que ce n'était pas sans conséquence et que ce n'était pas une utilisation équitable des œuvres protégées. En d'autres termes, ce qu'au départ on considérait comme un acte sans conséquence de la part des enseignants ne nous permet pas d'atteindre le principe de l'équilibre. Les permis collectifs sont une bonne solution et permettent aux usagers d'avoir accès aux œuvres protégées et permettent aux créateurs et aux détenteurs d'être rémunérés pour l'utilisation de leurs œuvres. Les permis collectifs dans le monde de l'imprimé existent par l'accès aux droits d'auteur et au Québec par copyback. Pendant 20 ans, on a permis les photocopies à grande échelle. En vertu de ce principe, on est des intermédiaires et on facilite les autorisations et on permet maintenant le cyber-usage de certaines œuvres. Grâce à ces permis, les professeurs, les étudiants, les organismes à but non lucratif partout au Canada ont accès à des millions d'œuvres et peuvent copier des millions de pages par année, tout en s'assurant que les détenteurs de droits et les créateurs soient rémunérés pour l'usage de leurs œuvres. La rémunération juste pour l'utilisation d'œuvres protégées est au cœur même de ce principe d'équilibre. Une rémunération juste est un principe essentiel pour l'innovation, l'investissement et la rémunération supérieure au Canada, le troisième des 4 principes utilisés par le gouvernement dans le changement de cette loi. Des éditeurs investissent chaque année en R&D pour créer de nouveaux livres pour le secteur de l'éducation et pour d'autres secteurs d'activité. Ces investissements sont dans les modèles numériques et ça crée des emplois bien rémunérés au Canada et on peut profiter du travail de plein de pigistes, écrivains, journalistes, créateurs. L'utilisation des œuvres protégées sans rémunération touche le marché. Et lorsque le marché souffre, les investissements sont à la baisse et les créateurs sont touchés indûment. Auparavant, on a tenté avec succès de changer cette loi et on est arrivé à un équilibre entre les détenteurs et les usagers. Mais ça prenait des lois qui permettent l'utilisation des travaux numériques, par exemple, et des permis collectifs pour le photocopiage. On peut avoir des exceptions dans certains cas. Cependant, il faudrait voir, car on pourrait entrer en conflit avec les attentes du marché. Naturellement, nous avons des engagements internationaux à respecter et les exceptions ne s'appliquent pas lorsque le marché satisfait le besoin des usagers d'avoir accès aux œuvres. Par exemple, lorsqu'il y a des permis collectifs. Ce soir, il y a plusieurs collègues qui ont parlé du besoin d'élargir l'utilisation équitable pour ajouter 2 mots. Est-ce que le problème, c'est un problème d'accès ou un problème de libre accès? J'encourage le gouvernement à se pencher sur les répercussions des exceptions, y compris l'élargissement de l'utilisation équitable. On pense parfois qu'il y a des exceptions qui ne changeront pas grand-chose, mais il faut penser aux milliers d'éditeurs et de créateurs qui doivent profiter du produit de leurs œuvres. Il faut en arriver également à réfléchir à cette notion de permis collectif. Merci. Nancy Morelli, présidente du comité du droit d'auteur du Conseil des archives du Canada. Vous connaissez peut-être pas le domaine, donc je vais vous dire ce qu'on fait un peu et qui nous sommes. Les archivistes protègent et préservent le patrimoine archivistique du Canada pour la génération à venir et actuelle. Les archives canadiennes sont remplies de matériel historique préservé grâce aux deniers publics. On parle de documents généalogiques, de lettres, de photographies, de films à la maison, de dossiers d'immigration, de dessins, de courriels et autres. Et j'en passe. La plupart des œuvres n'ont pas été créées à des fins commerciales. Il s'agit de dossiers qui témoignent de la vie de Canadiens ordinaires, des photos de vos grands-mères, de votre oncle, des photos que vous avez prises en 1951 au chalet, ou ce qui se passait à la baie Georgienne à l'époque. Et on sait que les paysages ont bien changé depuis. Ça peut être le journal intime de votre tante qu'elle a écrit dans les années 30 dans les prairies, des films de petits autochtones qui se rendent dans les écoles résidentielles en 1958, ou un film d'une petite entreprise qui a commencé dans les années 20. Ce matériel archivistique est important car il raconte l'histoire des Canadiens et Canadiennes ordinaires. Les détenteurs, les archives sont la mémoire du peuple. Les archivistes ne se préoccupent pas de la valeur monétaire ou commerciale, mais plutôt de la valeur historique du matériel. Le public a dû se déplacer dans nos établissements par le passé pour avoir accès à ces documents. Mais dans le monde numérique, les archivistes veulent satisfaire les besoins d'information des usagers et veulent quand même protéger les œuvres de ceux qui nous remettent leurs documents. De plus en plus, notre monde est dynamique et non pas passif. On n'attend pas que les gens viennent frapper à notre porte pour leur montrer nos collections. Nous essayons de rejoindre la population canadienne afin de lui fournir de l'information sur l'accès à toute cette belle documentation dont nous disposons. Pour ce faire, de façon efficace, les archivistes demandent des dispositions législatives pour que ces archives puissent continuer de donner au grand public accès à ces documents archivistiques. Avec le monde numérique, on peut élargir cet accès. Le gouvernement s'est engagé à traiter de toutes les œuvres qui sont cachées à l'heure actuelle dans nos coffres, car ils ne sont pas disponibles, étant donné les limites du droit d'auteur. Dans le monde numérique, pour la première fois dans notre histoire, les archives peuvent ouvrir leurs portes au grand public. Le grand public n'a plus à venir sur place. Nous avons la technologie pour donner un juste accès à nos collections pour un chercheur à Vancouver, à Thunder Bay ou au Nunavut, ou pour un chercheur qui est à deux pas des archives à l'Université Concordia au centre-ville de Montréal. On veut donner un accès équitable.
Il faut faire de la bonne politique publique. Il ne faut pas que nos institutions d'archives languissent, parce que le public ne sait pas qu'ils y ont accès. Le public ne sait pas ou n'a pas moyen d'y avoir accès, ne pouvant pas se déplacer pour y avoir un accès physique.
Nos archives racontent l'histoire de notre pays, de nos peuples. Ça, il faut pouvoir leur rendre l'information disponible, par exemple, sur les sites Web. Les archivistes croient que la loi sur la protection des droits d'auteur, tout comme l'ont dit bien d'autres ce soir, devrait être technologiquement neutre. Ça devrait comprendre des droits tant pour les utilisateurs que les créateurs, fondés sur une bonne politique publique, plutôt que de parler de toutes ces différents moyens de transmission et de distribution. Pour ce qui est des archives, cela signifie que les droits d'utilisateurs qui sont technologiquement neutres doivent être inclus dans les lois et les principes directeurs qui sont bien fondés sur une bonne politique publique qui porte directement sur le droit d'auteur. Nous vous demandons de permettre aux archives de faire avancer ce dossier au Canada en faisant preuve de leadership, en facilitant l'accès à nos collections comme l'un des éléments de recherche qui sera un élément clé de la réussite future du Canada. Je vous remercie. Il fallait aussi mentionner la baie géorgienne. C'est très futé de dire cela. Oui, mais les gens n'y pensent pas, mais les ressources d'archives contiennent ce genre d'informations. Comme le député qui représente la baie géorgienne, j'y réfléchis souvent, j'y pense souvent. Alors, je vous remercie de l'avoir mentionné. Bonsoir. Je me nomme Jake Herwilson. Je suis là pour représenter la Business Coalition for Balanced Copyright. Lorsqu'on parle d'un droit d'auteur équilibré, c'est ce qu'on a. Nous représentons les intérêts des entreprises sans fil, les fournisseurs, les FSI, les radiodiffuseurs, les commerçants, les entreprises de technologie. Nos membres comprennent Rogers, Bell, Sasktel, TELUS, Google, Yahoo, Retail Council of Canada, entre autres. Est-ce que l'Association canadienne les radiodiffuseurs. Nos membres ne s'opposent pas à la réforme du droit d'auteur ni les mesures qui appuient les créateurs du contenu. Nous voulons, au contraire, assurer l'accès aux produits et aux services qui sont rendus possibles grâce à toute cette innovation et tout ce talent. Nos membres fournissent aux consommateurs les outils pour avoir accès au contenu qui les intéresse, mais aussi nous sommes des créateurs et des innovateurs nous-mêmes. Nous comprenons l'importance économique de protéger la propriété intellectuelle et de fournir des incitatifs à la créativité. Mais les règles du jeu ont beaucoup changé. Le terrain de jeu a beaucoup changé aussi. Il faut que le Canada s'adapte à cette nouvelle réalité ou risque de perdre sa pertinence. Les consommateurs ont été touchés par les droits d'auteur de façon indirecte anciennement. Ils étaient les consommateurs de ces œuvres, mais ne s'inquiétaient pas les droits d'auteur. C'était le problème de quelqu'un d'autre. C'était les radiodiffuseurs, les compositeurs, les autres, les interprètes, les artistes, les réalisateurs qui devaient naviguer les règlements et sans faire des détails. C'est sûr que l'innovation technologique a beaucoup changé le paysage. Les consommateurs ne sont plus seulement de simples spectateurs, mais des participants directs. Ces réseaux et cette nouvelle technologie ont donné aux Canadiens moyens un pouvoir sans précédent de pouvoir créer, de distribuer et de jouir du contenu. Il faut contrer cette nouvelle réalité non seulement avec de nouvelles règles et de nouvelles restrictions, mais aussi en reconnaissant que l'innovation se produit partout dans le réseau, que ce soit une grosse entreprise médiatique ou d'un individu devant son ordinateur ou un individu qui utilise son téléphone mobile. Donc, nos membres croient que la prochaine série de modifications législatives doit refléter certains principes de base. D'abord, et ça ne vous étonnera pas, il faut qu'il y ait des exceptions d'utilisation juste qui permettent aux consommateurs d'avoir accès au matériel protégé sans détruire les marchés légitimes pour ce matériel, mais qui reconnaît les attentes légitimes des gens de pouvoir y avoir accès et d'en faire une utilisation dans une variété de formats, de plateformes et pour une variété de raisons. Des règles qui essaient de capter des utilisations spécifiques ou de cibler certaines technologies seront désuètes même avant que le projet de loi ne soit adopté. Il faut faire preuve de souplesse et d'adaptabilité pour ces mesures technologiques. Et toutes les autres mesures technologiques aussi. Il ne faut pas empêcher aux gens de faire des utilisations légitimes et non de façon. Nous ne voulons pas faire augmenter les coûts non plus. Lorsque possible, il faut compter sur le marché pour rétablir des valeurs et pour créer de nouvelles opportunités commerciales. Les interventions réglementaires doivent être des mesures de dernier recours qui se limitent seulement aux rares cas d'échecs commerciaux. Les détenteurs des droits doivent être compensés pour l'utilisation de leurs œuvres, mais ça ne devrait pas exiger l'utilisation de lois onéreuses.
Quatrièmement, nous ne pouvons pas transférer le fardeau de l'application de la loi des détenteurs de droits vers les réseaux qui sont essentiels pour le bon fonctionnement de toute cette vitalité économique et technologique. Il faut réagir aux nouveaux défis, bien entendu, technologiques, mais il faut qu'on soit respecté les valeurs canadiennes aussi, comme la protection de la vie privée. Il est sûr qu'il s'agit d'un long et complexe processus. Mais les répercussions inattendues peuvent persister pendant de longues années. Alors, faites très attention, envisagez aux répercussions à long terme de votre approche. Nous souhaitons que le gouvernement fasse bien tout cela d'emblée. C'est peut-être notre dernière chance pendant bien longtemps. Merci. Bonjour, je me nomme Graham Henderson. Je suis du Canadian Recording Industry Association. J'aimerais féliciter ces deux ministres pour leur initiative ainsi que pour l'initiative de cette économie numérique qui va de l'avant. J'ai participé à Ottawa assez récemment et je pense qu'on peut certainement dire que l'avenir dépend de l'innovation. Et je pense que nos membres partagent cet objectif avec vous. Nous envisageons et espérons voir un marché qui est riche en choix numérique et qui sera tant avantageux tant pour les créateurs que pour les consommateurs. Et afin de permettre cette réalité, il nous faut des lois fondées sur de bons principes qui seront pertinents par rapport aux besoins et aux demandes, aux exigences de l'avenir. Je vais vous parler surtout du marché, bien entendu, plutôt que des utilisations éducatives, quoique je suis très encouragée par le fait qu'on ne s'attend pas à ce que les ententes équitables représentent des ententes gratuites. Mais commençons par le début. Si nous pensons que la ligne de départ est un endroit où nous allons nous rencontrer avec nos concurrents internationaux. Et pour que tous partent en même temps, il va falloir y repasser, parce que nos concurrents nous ont déjà dévancés d'une vingtaine de mètres. Et même s'il s'agit d'un sprint numérique. Par exemple, en termes de musique, il y a toutes sortes de marchés en plein essor. Aux États-Unis, par exemple, il y a le partage numérique du marché musical. Cette part représente 36 %, tandis qu'au Canada, ça s'élève qu'à 17 %. Pourquoi? Bien, une des différences s'explique parce que parmi nos concurrents qui nous ont dévancés, ont des règles qui régissent le marché, qui encouragent l'innovation et l'investissement. Et ce sont ces mêmes pays qui ont en fait adopté ce traité de l'OMPI, et de façon robuste. Ils vont même au-delà pour pouvoir relever de nouveaux défis au fur et à mesure qu'ils se présentent. Par exemple, au Royaume-Uni, en France, en Italie, au Taïwan, en Corée, dans d'autres compétences. Pendant que nous continuons à en parler, à débattre de toutes ces questions, eux ont déjà commencé la course à toute allure. On entend souvent dire que les lois sur le droit d'auteur entravent l'innovation. Il y en a qui voient cela comme étant un recul. Et je demanderai les preuves de cela, moi. Contrairement au Canada, tous nos partenaires commerciaux ont mis en œuvre depuis longtemps le traité de l'OMPI. Et si c'était vraiment nuisible, les preuves existeraient déjà, mais je n'en vois pas. Nous savons, en regardant autour du monde, que loin d'entraver l'innovation, cela a encouragé l'innovation. Maintenant, parlons de la musique numérique. Il y a de beaux nouveaux modèles comme Spotify qui accompagnent la musique. Ça commence à se faire remarquer partout au monde, sauf au Canada. Ces modèles ne sont-ils pas offerts au Canada? Et non seulement cela, mais que le Canada ne génère pas de ce genre de modèle. Et ici, hélas, c'est le seul choix qui s'offre aux consommateurs à l'heure actuelle. Pour la musique en ligne, serait iTunes de façon générale ou iLegal, c'est-à-dire illégal. Maintenant, il y a des compétences comme en Suède ou au Royaume-Uni. Les marchés numériques sont en plein essor. Comme résultat, les activités qui sont même parmi les jeunes qui respectent la loi, et tandis que les comportements illégaux sont à la baisse. Et pourquoi pas? Parce que ces nouveaux modèles sont fantastiques. Alors, voilà l'idée. Tant pis pour cette génération soi-disant perdue et qu'on ne pouvait pas modifier leur comportement.
Mais pour les rattraper, il va falloir qu'on parte à toute vitesse. Il va falloir qu'on fasse preuve de grande intelligence et d'agilité. Ça veut dire qu'il faut profiter des expériences, des pratiques exemplaires des autres, essayer plutôt que d'essayer d'inventer un modèle purement canadien. Mais il nous faut commencer par les mêmes règles du jeu. Il nous faut préparer le terrain. Il faut indiquer aux Canadiens ce que sont les comportements inacceptables et acceptables. Il faut respecter les lois. Il nous faut faire participer à part entière. Il faut appliquer la loi pour empêcher le piratage. On parle de la protection du produit, de la créativité des gens, de leur temps, de l'investissement financier. Au Royaume-Uni, par exemple, ils se sont fixés des cibles pour réduire le piratage de 70 à 80 %. J'aimerais vous parler d'une préoccupation qui provient du statu quo au Canada, et c'est l'effet qui décourage l'innovation au Canada. Les artistes au Canada peuvent beaucoup moins se développer dans ces conditions, et la récolte sera bien amère de notre inaction. Il y a seulement 3 artistes canadiens qui ont gagné des prix internationaux l'an prochain. En musique de nos jours, après avoir vu de très beaux interprètes canadiens comme Joni Mitchell et Alanis Morissette, nous en avons beaucoup perdu. C'est inacceptable. Nous pouvons faire bien mieux. Le ministre Moore, les groupes de Canadiens, l'ACTRA et la FEB, demandent des règles qui respectent le traité de l'OMPI. Il faut les écouter. Je pense qu'il existe 4 principes qui devraient devenir vos principes directeurs à mesure que vous préparez votre nouveau projet de loi. Les voici. Il faut protéger c'est sûr qu'il faut avoir un juste équilibre entre les créateurs et les consommateurs. Ensuite, il faut fournir des règlements qui sont justes et équitables pour que les Canadiens, les créateurs canadiens puissent tirer profit de leur création. Ensuite, il faut favoriser l'innovation afin d'attirer des investissements et des bons emplois très payants ici au Canada. Et enfin, il nous faut assurer à ce que notre cadre pour l'Internet s'aligne avec les normes internationales. Je vous remercie. Bonjour, Jessica Litwin, je suis de la Conférence canadienne des arts, qui est la plus vieille association culturelle et artistique au Canada. Nous représentons des artistes, des créateurs et des utilisateurs ici au Canada. À cause de cela, nos membres ont souvent des opinions très vigoureuse à exprimer. Donc, et nous vous remercions de nous avoir invités à participer à cette consultation et nous sommes là à titre d'observateur seulement ce soir.
Ministers, departmental staff, and
Bonjour, chers ministres, collègues. Je me nomme Fran Cutler. Je suis l'ancienne présidente du conseil de directeurs de l'Institut national canadien pour les aveugles. L'Institut est une institution vénérable qui offre du matériel aux personnes malvoyantes, aux personnes aveugles depuis plus de 90 ans. Nous avons toujours respecté les détenteurs de droits et du droit d'auteur. Je suis là aujourd'hui pour représenter Margaret McGrory, qui est une des directrices de l'Institut. Et moi, je suis une consommatrice enthousiaste de ce matériel. Avant d'aller plus loin, j'ai quelques conseils à offrir aux 3 intervenants. S'il doit y avoir d'autres consultations nationales, je l'encourage à élargir sa définition d'avertissement. Parce que pour être inclusif, ça n'existerait pas pour ceux d'entre nous qui sommes avec. Peut-être que vous pourriez nous offrir des indices auditifs plutôt que simplement visuels. Nous allons vous fournir nos commentaires écrits, mais j'aurai quelques commentaires à prononcer aussi de la part de Margaret McGrory ainsi que son personnel expert. J'ai quand même un guide qui m'accompagne aussi et mon chauffeur, Henry Burns, mais il ne vous adressera pas la parole ce soir.
l'Institut va se limiter à des commentaires sur ces aspects de la législation proposée qui nous touche particulièrement. Bien entendu, notre mandat est de fournir du matériel accessible aux personnes ayant des déficiences visuelles ici au Canada, ainsi que d'autres qui ont des déficiences perceptuelles, par exemple cognitives, des difficultés d'apprentissage ou des gens qui ne peuvent simplement pas tenir un livre.
L'article 32 comporte une exception et il y a peut-être là une ambiguïté qui ne respecte pas les règles de l'INCA selon son mandat. Nous prétendons de revoir cet article pour qu'il reflète davantage notre travail pour valider ce qu'on fait sans élargir le rôle de la bibliothèque de l'INCA. Il est important que l'INCA et d'autres instituts puissent reposer sur le matériel tangible et sur le cybermatériel. On est quand même au 21e siècle. Ces instituts et organisations ne peuvent pas tout faire dans le domaine. Les organismes à but non lucratif comme l'INCA et les autres organismes semblables partout sur la planète font un travail remarquable sans enfreindre les droits d'auteur. On doit pouvoir regarder l'article 32. Les gens qui ont des déficiences visuelles devraient pouvoir contourner les TDM. En français, les MPT, pardon. Il faut naturellement tenir compte des gens aussi qui ont des problèmes de déficience sensorielle. Nous recommandons de permettre l'importation de matériel d'autres pays qui eux-mêmes respectent les lois de droit d'auteur comme le fait l'INCA. L'INCA est chef de file dans la production de matériel de rechange et plusieurs organismes comme la nôtre provenant d'autres pays veulent y avoir accès. On recommande donc d'autoriser ces autres organismes à avoir accès à ce matériel que nous rendons disponible à ceux qui ont des problèmes de déficience visuelle ou sensorielle. Voilà pour ce qui est des principaux points de notre mémoire. Nous vous soumettrons un mémoire écrit d'ici quelques semaines et nous vous recommandons de consulter d'autres organismes qui représentent des gens comme le Voice Broadcast Association de Toronto. Merci infiniment. Nous avons fini le tour de table. Est-ce qu'on a raté quelqu'un? Non. Bon. Alors, nous aimerions continuer pour un autre 15 à 20 minutes, si ça ne vous dérange pas. On a 9 minutes de retard. On pensait aller jusqu'à 9 heures, si ça ne vous dérange pas, car on a ici de gens de tous les milieux, mais tout le monde parle d'équilibre juste, chacun ayant sa propre notion. J'ai une minuterie. Pourquoi est-ce qu'on ne permet pas ici aux gens de faire des commentaires sur les présentations des autres et la personne qui fait l'objet du commentaire aura le même temps pour réagir? Est-ce que cela vous semble une procédure juste? Est-ce que quelqu'un veut entamer le bal? Le cas échéant, levez la main. Les gens vont avoir accès à l'interprétation et vont également avoir accès à la transcription des échanges qui ont lieu ici. On va procéder de façon polie, comme c'est la coutume au Canada. Matthew Johnson, Media Awareness. Je voulais réagir à une question soulevée par la collègue d'Access Copyright. Je ne peux pas lire votre nom. Désolée, j'ai entendu tellement de noms ce soir, de toute façon, dans tous les cas. Vous avez parlé du scénario d'un enseignant qui fait des photocopies d'un livre. Tout le monde ici est d'accord pour dire que il ne serait pas raisonnable d'empêcher cela en vertu d'une loi sur le droit d'auteur. Mais il y a deux autres instances gouvernementales qui ont traité de cette question dans la réforme du droit d'auteur. Et les enseignants peuvent encore utiliser les œuvres protégées. Tout d'abord au Royaume-Uni. Au Royaume-Uni, on a une disposition qui permet aux enseignants et enseignantes d'utiliser les œuvres protégées à des fins éducatives dans la salle de classe. Mais il y a une exception précise dans l'article. Il faut qu'il y ait un permis collectif. Donc, s'il y a un permis collectif, ça c'est la première exigence, eh bien, on peut à ce moment-là utiliser l'œuvre protégée au sein de la communauté des enseignants. Mais une meilleure solution est celle des États-Unis. Aux États-Unis, comme vous le savez peut-être, il y a plusieurs tests d'utilisation équitables. On voit si ça nuit à l'éventuelle marchandisation du produit. Alors, est-ce que ça nuit financièrement à la mise en marché dans le cas d'un livre? La réponse, c'est oui. On doit utiliser le livre dans la salle de classe, un par étudiant, donc ça nuit au succès commercial de l'œuvre écrite. Mais une publicité à la télé, une partie d'une émission de télévision ou d'un film, mais là, ça vise le divertissement. Ça ne vise pas, c'est pas un outil didactique. Donc, on peut en utiliser des extraits dans un cadre éducationnel. Mais il est prouvé quand même que c'est là une utilisation équitable. Bon, ben ça fait 2 minutes. On va laisser l'autre personne réagir. Merci. Merci pour cette occasion de me prononcer sur l'utilisation équitable et sur ses incidences sur les permis et sur leur usage dans, sur l'usage de ces œuvres protégées dans le domaine de l'éducation. C'est intéressant de dire que la plupart des gens sont d'accord que la photocopie de 5 pages d'un livre dans une salle de classe, c'est pas une utilisation non équitable. Sachez que les ministères de l'Éducation se sont opposés à un tarif et il y aura un appel, un examen judiciaire. On n'est pas tout à fait d'accord, même si c'est la logique au départ. Et la solution, j'ai entendu parler de la solution au Royaume-Uni. Il y en a d'autres ailleurs. Il y en a une dans notre propre loi où on prévoit d'autres exceptions. Par exemple, on peut continuer à utiliser des exceptions, comme les exceptions que j'appelle intelligentes, des exceptions actuelles qui fournissent un accès à l'usager s'il y a un besoin précis. Donc, on peut justifier l'accès dans certains cas, comme dans le domaine de l'éducation. Mais il y a déjà une exception. Mais souvent, quand l'œuvre est disponible sur le commerce ou lorsqu'il y a une licence, ça limite le droit. Et ainsi, les détenteurs peuvent recevoir leurs droits et prévoir aussi un accès tout en ayant une rémunération juste. On devrait respecter ce modèle, l'encourager même. Il y a des exceptions intelligentes. Il y en a déjà dans la loi sur le droit d'auteur, la loi actuelle. Parfois, il y a un besoin d'accès. Et l'accès est justifié, comme par exemple dans le secteur de l'éducation. On parle aussi du domaine de la recherche. Naturellement, si on parle d'une mise en marché, ça c'est une chose. Mais l'important, c'est que la rémunération puisse se rendre à l'auteur, comme David Kibble disait plus tôt. Donc, on devrait encourager ce genre de choses, à mon avis. Merci. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a un autre commentaire? Monsieur Geist. Michael Geist, je ne peux pas résister. Je suis d'accord avec ce qu'a dit Graham lorsqu'il a parlé de l'économie numérique. On dit qu'il faut suivre d'autres modèles, pas seulement le modèle canadien. Il faut respecter les normes internationales. J'ai deux choses à dire. Tout d'abord, il n'y a pas une norme internationale. Voyager d'un pays à l'autre, regardez ces lois sur les droits d'auteur. Vous allez voir qu'il y a des différences. On ne peut pas dire « ne faites pas ce que font les États-Unis dans le droit de l'usage juste ou du droit d'auteur de la couronne ». Ils ont des longueurs d'avance sur nous. Dans certains cas, il n'y a pas de dommages-intérêts juridiques. Donc, oui, on peut voir ce qui se fait ailleurs et s'inspirer de ce qui se fait ailleurs. Mais je pense qu'il faut reconnaître qu'il y a autant de régimes de mise en œuvre qu'il y a de pays signataires de traités. Vous pouvez aller en Europe, en Asie ou ailleurs dans le monde et vous verrez qu'il y a toutes sortes d'exceptions, toutes sortes d'approches. Donc, lorsqu'on parle de respecter une norme internationale, on parle plutôt du traité. On ne parle pas de s'inspirer d'un pays signataire du traité de l'OMPI. Naturellement, si on veut aller de l'avant, il faut s'assurer qu'il y a toujours un équilibre et assez de flexibilité. Graham a dit qu'il fallait avoir un recueil de pratiques exemplaires, voir ce qui se fait ailleurs dans la mise en œuvre de la loi. Que c'est là une façon d'aller de l'avant. Il me semble que c'est logique. Il faut quand même tenir compte de ce qui se fait ailleurs. Réponse, oui, tout à fait. J'ai parlé des 61 séries sur le C61 de commentaires. En fait, ce qu'on a fait, on a regardé ce qui se faisait ailleurs dans le cadre des dispositions de contournement. Regardons ce qui se fait en Nouvelle-Zélande. On peut dire qu'il y a, oui, des droits de contournement, mais il y a beaucoup de citoyens à qui on dit « Vous avez les outils de contournement à des usages équitables. Les gens ne savent pas faire avec des programmes comme Handbreaker. Donc, il faut que les bibliothèques, les archivistes puissent avoir le droit de contournement au nom des usagers dans des circonstances précises. Donc, il faut que l'industrie puisse respecter les normes de l'organisme international du droit d'auteur comme l'OMP. Je maintiens ce que j'ai dit plus tôt. Le ministre, d'ailleurs, en a parlé un peu rapidement. Mais il n'y a pas accord sur cette norme internationale. Moi, je prétends que, sauf exception, il y a un consensus international sur la mise en œuvre du traité de l'OMPI. En Union européenne, on passera bientôt à une ratification de masse et il suffit que quelques pays aient leurs outils et ils vont aller de l'avant. Donc, plutôt que de reposer sur ma simple parole, le ministère peut bien voir ce qui se fait ailleurs, quelles que soient les prétentions concernant la mise en œuvre du traité de l'OMPI. Il y a des gens qui nous ont dit qu'on deviendra un État policier. D'autres ont dit qu'il faudra confisquer les iPods à la frontière ou que l'innovation mourra de sa belle mort ici au pays. J'ai dit, bon, ben, ouvrons la porte, faisons une analyse sérieuse de ce qui se fait ailleurs dans d'autres pays. Et je ne pense pas qu'on devrait se limiter aux États-Unis. On en a parlé à quelques reprises ce soir. Je pense qu'il est aussi important de regarder ce qui se fait en Union européenne également. Je prétends que non seulement l'Union a renforcé le traité de l'OMP, mais les grands pays comme la France, le Royaume-Uni et la Suède ont mis en œuvre ce traité. Et on lit dans les quotidiens qu'ils vont même au-delà du traité de l'OMPI, bien au-delà. Monsieur De Beer, vous vouliez prendre la parole? Je serai bref. J'appuie la demande de Graham Anderson d'avoir davantage de données empiriques. Oui, il faut regarder ce qu'il y a sur le terrain pour appuyer toutes les approches. Naturellement, il faut y mettre le temps, l'énergie, s'investir là-dedans. Je ne m'attends pas à des réactions de personne, mais je voudrais revenir sur une chose qui a été soulevée par Jacob Wilson. Parlons du droit d'auteur de façon pratico-pratique. On peut essayer de parler de la rédaction d'une loi qui va satisfaire tout le monde, mais essayons d'être plus pratiques pour que le commun des mortels au Canada puisse comprendre cette loi et son application. À l'heure actuelle, la loi canadienne sur le droit d'auteur est désuète. Les gens ne respectent pas la loi. Et c'est pas très bien, à mon avis. L'état du droit à l'heure actuelle, c'est qu'on ne respecte pas du tout le droit d'auteur. C'est la raison pour laquelle ça prend une réforme du droit d'auteur. Et comme je l'ai dit plus tôt, il faut que l'utilisation équitable soit réaliste. Si on est trop technique, comme dans le projet de loi C-61, eh bien, à ce moment-là, le public sera davantage frustré.
Et dans le cas des dispositions relatives au contournement, hein, si cela ne reflète pas la plupart des réalités des gens, les pratiques quotidiennes, les besoins quotidiens vont exacerber ce problème de manque de respect de la loi. Donc, je pense qu'il faut vraiment avoir des licences collectives adopter ce genre de solution. Merci. J'aimerais soulever les commentaires de Michael Geis et rappeler les ministres au sujet du document de discussion 1998 où on avait parlé justement de ce traité de l'OMPI. On avait parlé des mesures technologiques qui étaient soulevées par le gouvernement canadien. C'était en fait de permettre le contournement lorsque ce n'était pas en violation du droit d'auteur. Donc, il s'agit d'une bonne option possible. C'est viable et nous ne sommes pas obligés d'aller jusqu'au point où sont allés les États-Unis. Ensuite, il y avait des tracés comme la Convention Berne où on permettait de mettre en œuvre des exceptions pour certaines raisons, puisqu'on s'est dit que la loi sur les droits d'auteur porte non seulement sur la rémunération, mais qu'il y a un certain équilibre à atteindre, ce qui veut dire qu'il faut avoir permettre certaines exceptions. On dit aussi qu'on peut mettre de l'avant et d'avoir dans le milieu numérique des exceptions et des limites existantes et qu'on peut en développer de nouvelles. Troisièmement, j'aimerais vous parler de la rémunération. Les universités et les collèges ici au Canada dépensent environ 65 à 70 millions de dollars par année pour payer les droits d'auteur, pour payer les frais de licence, etc. Nous sommes certainement en train de rémunérer les auteurs et les détenteurs de droits, mais le bon nombre de personnes qui créent les œuvres utilisées dans les universités, des professeurs d'universités partout au monde, ont différentes incitatives pour la création. Bon nombre d'entre eux créent non seulement parce qu'ils cherchent à être compensés, mais aussi parce qu'ils veulent augmenter le savoir. Ils veulent contribuer au savoir collectif dans leur propre domaine. Ce n'est pas toujours une question d'argent. Lorsqu'on parle, par exemple, de la publication académique, le lien entre la rémunération et la publication a été brisé à cause de certaines exigences, soit que qu'afin d'être publié, il faut renoncer à certains droits. À certains droits d'auteur. Il y a d'autres aspects, donc, sur toutes ces questions, c'est loin d'être simple. Il y a des répercussions inattendues pour examiner les questions de très près. Je pense que les conséquences inattendues et imprévues, si on regarde les enjeux de façon très prudente, et c'est crucial. Je ne crois pas, et je pense que la communauté des archives ne croit pas qu'il y avait une intention directe d'essayer de prévenir l'accessibilité, d'entraver l'accessibilité mais c'est la répercussion inattendue. Voilà ce qui nous arrive. Et nous vivons avec cela, comme quelqu'un a mentionné depuis belle lurette. Je pense que c'est vous, en fait, qui avez dit que nous vivons avec cela depuis belle lurette. Il nous faut étudier ce que sont ces questions et ces enjeux. Il faut les regarder de très près. Il faut comprendre à fond ce que cela représente. L'environnement numérique a changé tout le paysage de l'information. Ça a changé, c'est différent, c'est difficile, il n'y a pas de solution facile. Et les répercussions inattendues et prévues peuvent être très, très graves. Moi, je suggère, et je pense que c'est très bien dit, je pense qu'il existe une solution et même la loi sur le droit d'auteur est détesté en est un exemple. Aux États-Unis, on peut dire comment est-ce que ça se fait exactement. Peut-être qu'on n'aime pas le processus, on veut améliorer le processus, mais l'idée, au fond, c'est qu'il y a un examen triennal. Les gens viennent se prononcer et soulèvent leurs préoccupations. En fait, il y a un mécanisme pour contrer les problèmes potentiels qui peuvent survenir. Et je pense, cher ministre, cela pourrait nous aider. Assurer l'actualité. Bien, vous voulez dire qu'il va falloir recommencer tout cela d'ici 3 ans? Y a-t-il quelqu'un d'autre qui souhaite s'exprimer, se prononcer? Bon, alors je tiens encore une fois à vous remercier tous et chacun. La conversation a duré 2 heures. Elle a été très bonne. Elle a été rigoureuse et riche. Ça va continuer à Montréal. Je suis sûre que la discussion sera très vive là aussi, ainsi que lors de toutes les autres consultations nationales. Si vous voulez rajouter quoi que ce soit à vos commentaires que vous avez prononcés ici ce soir, n'hésitez pas du tout à nous les faire parvenir. J'ai trouvé la discussion et toutes les présentations très utiles, très intéressantes. Je vous remercie tous. Je serai à Toronto, moi, tant pour une table ronde ainsi qu'une consultation nationale prévue le 27 août. Je pense qu'il y en a une autre à Winnipeg après ça, n'est-ce pas? Quelqu'un a mentionné un événement. Ah, c'est Shelley qui fait celle de Winnipeg. Et je serai aussi à Halifax le 10 août. Alors, nous prenons cela très au sérieux. Nous faisons le tour du pays et je vous encourage à reconnaître notre sérieux dans tout cela. Je ne crois pas que nous en soyons au stade des conclusions pour l'instant, mais je commence à mieux comprendre tous ces enjeux à bien des points de vue. Pourvu qu'on ne fasse pas subir un examen à la fin d'une de ces sessions, je pense que ça devrait aller. Je pense que nous finirons par arriver au consensus. Et je pense qu'il faut reconnaître aussi que Patrimoine Canada et Industrie Canada sommes ici à la même table. Nous collaborons sur ce dossier. Et nous devrions bien le faire d'ailleurs. Oui, et cette conversation sera bientôt affichée sur le site Web. Alors, continuez à être à l'affût et à suivre le débat et la discussion comme nous le faisons. Bonne soirée.